Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Spiritualité en question. Bonsoir, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission et la dernière avant donc, la période estivale. Donc je rappelle, le juillet-août, il n'y aura pas d'émission Spiritualité en question ainsi que d'autres. Je vous invite d'aller sur le site Radio TerraZen pour voir quelles émissions vont se stopper pendant cette période et celles qui vont continuer pendant cette période d'été. Je vais accueillir de suite Jean. Jean, est-ce que tu m'entends ?
Oui, parfaitement.
Oui.
Bonsoir, Cédric.
Oui, bonsoir, Jean. Content de faire cette dernière émission avant l'été. On va un petit peu parler de différents sujets que tu avais justement envie d'aborder avant de commencer cette période estivale. Alors, quel était déjà ton premier sujet que tu voulais développer pour ça ?
Il y a un sujet, moi, qui me tient à cœur, c'est parler de la confiance. Alors, c'est un mot que tout le monde connaît, mais c'est un mot dont on ne mesure pas l'importance. La confiance, c'est une des valeurs qui, à mon sens, tire toutes les autres. Et sans confiance, on n'est plus rien, quoi. Hein, et toutes nos valeurs s'effritent à côté. La confiance tire toutes les autres. Mais la confiance, qu'est-ce que c'est ? Et c'est ça qui est important. Et quand on fait confiance à soi-même, parce qu'il faut commencer par se donner la confiance si on veut être capable de l'accorder à d'autres. Et d'ailleurs, c'est un signe. Quand on n'a pas la possibilité ou quand on ne se sent pas capable de donner confiance à quelqu'un, alors il faut se regarder et savoir dans quelle mesure on se donne confiance. Et ça, c'est ce qu'on rencontre plus souvent, parce que ça, c'est important. Oui. S'accorder la confiance. Et voilà. Et comment fait-on pour s'accorder la confiance ? Et en fait, à qui accorde-t-on la confiance ? Quand je parle de moi, à qui, je me donne à qui ? À qui cette confiance ? Je me donne cette confiance, c'est à qui que je la donne ? Alors ça, c'est un sujet qui revient toujours. Tous les derniers patients que j'ai eus, perte de confiance, perte de confiance. Et cette perte de confiance conduit à des événements dans la vie qui sont plus ou moins douloureux, qui sont plus ou moins dramatiques. Cette perte de confiance. Et la confiance, en fait, regardez, et ça j'en ai parlé souvent, en fait, savoir qui on est réellement. On est le chauffeur ou on est la voiture,
Oui.
Est-ce qu'on est le chauffeur ou est-ce qu'on est la voiture ? Et ça, c'est la question primordiale. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on devrait avoir toujours à l'idée. Qui suis-je, la voiture ou le chauffeur ? La voiture, c'est le corps que nous avons, là, que nous voyons quand nous sommes en face de miroir. C'est ce corps qui est à nous, dont on a le droit, on a le devoir de soigner, de prendre soin. Mais c'est ça, c'est la voiture. Mais qui est le chauffeur ? Qui est le conducteur ? Le conducteur, c'est pas le mental et ni l'ego, mais l'ego étant un instrument du mental. Le conducteur, c'est pas le mental, mais le conducteur, c'est qui ? C'est cet être spirituel que nous sommes en réalité. Quand on perd confiance, c'est que on est déconnecté avec cet être spirituel qui est en nous, parce que lui, cet être spirituel, ne se pose pas la question de la confiance. Lui, il est tout. Et c'est ça qui est important. Quand on perd confiance, c'est qu'on est déconnecté. Quoi. Et qu'est-ce qui est important ? C'est justement de se connecter avec cette source, cet être spirituel qui est en nous, qui est nous-mêmes. Qui est nous-mêmes, c'est le conducteur de notre vie. Et donc, si je fais confiance, je fais confiance à cet être spirituel qui, en réalité, me conduit. C'est pas le mental qui nous conduit, mais c'est ce qu'on croit tout le temps. Et ça m'amène à à cette idée, c'est que quand on veut quelque chose, quand on a un désir, quand on veut quelque chose, quand on commence une phrase, je veux telle ou telle chose, je voudrais avoir cette maison, je vais vendre cette maison, mais je vais en acheter une plus grande parce que je veux qu'elle soit comme ci, comme ça, etc. Eh bien, quand on commence une phrase par je veux, est-ce qu'on peut se poser la question, qui parle à ce moment-là? Qui veut, hein? Ben, généralement, c'est le mental. Hein? Généralement, c'est le mental. Et c'est le mental qui désire, qui demande, qui fait ci, qui veut là. Il veut toujours tout, le mental. Hein? Mais le mental, qu'est-ce qu'il sait, lui? Est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il sait? Comment peut-il savoir ce qui est bon pour nous? Il ne peut pas le savoir. Hein? Et ça, c'est une question qui revient tout le temps. C'est une question qui revient tout le temps. Je lisais des trucs, là, je trouve des textes toujours qui me désolent quelquefois. Mais bon, tu sais, chacun est au niveau de conscience qu'il est, et puis
oui, tout à fait.
C'est comme ça. Il n'y a pas peut-être de jugement. Mais je lisais quelque chose sur la loi de l'attraction il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours. Là, on a lu un livre, là. C'est assez étonnant, quoi. Voilà. Alors, il faut demander, et tu vas demander ce que tu vas attendre, tu demandes à l'univers, et tu attends, et tu vas avoir ce que tu désires. Ben non, ça ne marche pas, ça. C'est une illusion de croire que ça peut marcher. On ne peut pas demander, on demande qui, à qui, on va demander quoi. Mais qui demande? Ben, c'est le mental qui demande. Posons-nous la question, au fond de nous, c'est le mental. Et le mental, lui, il va avoir aucune réponse, bien entendu. C'est une illusion de croire que ça va marcher. C'est qu'une illusion. Et en fait, il faut être vraiment dans le lâcher-prise, quoi, pour être dans ce niveau de conscience où la confiance, du coup, n'est plus un problème, quoi. La confiance, elle est là tout le temps. Tu sais, je raconte une histoire, mais je crois que je l'ai racontée à ce micro.
Oui, peut-être, c'est possible.
Cette histoire de... Tu sais, si tu tombes dans une rivière avec un courant très fort, est-ce que tu te rappelles de cette histoire? Et
oui,
je dis, voilà, vous tombez dans une rivière avec un courant très fort, vous êtes dans une barque, et puis vous chavirez, vous êtes en plein milieu. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans la panique. Hein, et quel est le désir le plus pressant? C'est de rejoindre la rive au plus vite. Hein, c'est bien ça que,
oui.
C'est bien ça que on serait tenté de faire tout un chacun. Alors, oui, c'est vrai. De ce fait, on va nager à contre-courant. Et si on veut rejoindre la vie, elle arrive, on va nager à contre-courant parce que le courant est fort, on est obligé de nager à contre-courant pour aller vers le plus proche et on va s'épuiser.
Oui.
On va s'épuiser à faire cet effort. Mais dans la vie, c'est un peu ce qu'on fait. Dans la vie, c'est ce qu'on fait. Quand on a des projets, quand on a mille projets, des projets importants, des projets qui ne le sont pas, mais quand on veut quelque chose, on force. Il y a des obstacles, mais on continue et on s'épuise. On s'épuise à essayer d'obtenir ce qu'on désire. Quelquefois, on l'obtient, mais d'efforts et de souffrances. Eh bien, dans la vie, on fait toujours un peu ça. Est-ce que chacun peut se poser la question? C'est ce qu'on fait généralement. Eh bien, quand on fait ça, on ne vit pas. On est dans la survie. On est dans la survie. Pourquoi? Parce que quand on est dans le courant, qu'est-ce qui nous manque? C'est la sécurité. Et la sécurité, c'est une des grandes peurs du mental. La sécurité. Il a besoin de sécurité. Et il y a une deuxième option quand on est dans ce courant, là, dans cette rivière, imagine Cédric, hein. On peut nager dans le sens du courant. Et là, c'est beaucoup plus facile. Là, déjà, on a fait un grand progrès. Nager dans le sens du courant, mais avec l'idée toujours de rejoindre la rive. Bien sûr. Parce que être dans l'eau, ce n'est pas notre élément naturel.
Non,
on veut quand même être sur la terre ferme, poser le pied sur la terre ferme pour être en sécurité. Encore une fois. Et là encore, on est dans la survie. Alors, quand on nage dans le sens du courant, bien sûr, c'est plus facile. Là, ce sont les adeptes. Je vais être méchant, mais pour moi, c'est les adeptes du New Age, tu sais. C'est-à-dire les adeptes de la pensée positive, tu demandes et tu vas la voir, etc. Tu demandes à l'univers, tu demandes à l'univers, et tu attends et tu vas avoir la réponse. Enfin, ce sont toutes ces choses-là issues du courant New Age, il y a 30 ou 40 ans. Mais là, on est toujours dans le mental. C'est toujours le mental qui est là, présent. Et on est toujours dans la survie. On n'est pas dans la vie. Mais il y a une troisième option, et c'est celle-là que je préconise. C'est ne plus nager du tout. C'est faire le bouchon, faire la planche, se laisser porter par le courant. Parce qu'on ne lutte pas contre le courant. On se laisse porter et on confie à son âme. C'est là où il faut avoir une confiance totale, pas une confiance aveugle, une confiance à 100% en son âme, parce que notre âme, elle sait exactement là où nous devons aller. Et c'est ça le véritable lâcher prise, et c'est ça la véritable confiance. Confiance en son âme. Et c'est faire le bouchon et faire la planche. Parce que quand on fait la planche, il n'y a pas d'effort à faire, c'est très facile, et on peut se laisser porter. Et là, on va arriver à un endroit, on ne sait pas du tout quel est cet endroit, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on sait que notre âme, elle a les guides entières de notre voyage et de notre vie. C'est ça la confiance. La confiance, c'est vraiment lâcher prise pour donner tout le pouvoir, pour récupérer ce pouvoir que nous avons abandonné aux autres, récupérer ce pouvoir et le donner à notre âme. Et c'est ça que j'appelle la confiance. Voilà. Alors qu'on peut développer ça, bien sûr. Mais voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire, Cédric. Tu vas parler de la confiance parce qu'on vit maintenant une époque, et tout le monde peut s'en rendre compte, une époque de plus en plus compliquée. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Une époque dangereuse. On voit fleurir des éléments qui peuvent nous annoncer une guerre. C'est terrible. Donc, on est en train de vivre quelque chose d'un peu spécial, mais qui n'est pas rassurant du tout. Hein. Voilà. Qui peut très bien ne pas être rassurant. Et c'est là où il faut développer la confiance. Voilà. C'est là où il faut développer la confiance. Parce que c'est pas à l'extérieur qu'on va trouver notre sauveur. Le sauveur, il n'existe nulle part. Mais il existe en un seul endroit, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est notre âme qui va nous guider. Et c'est ça, c'est là où c'est important justement de développer cette confiance pour l'accorder à notre âme. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il puisse se passer, et là on s'en moque un petit peu de ce qui peut se passer, tu vois?
Ouais.
Voilà, c'est ce que je voulais dire, je dirai d'autres choses après, mais si tu avais des questions, Cédric, voilà, à ce sujet ou à d'autres sujets.
Bah, sur le sujet, en fait, on sait très bien par rapport à l'été, hein, donc forcément, beaucoup vont aller à la plage ou alors ce serait à la piscine. Et donc forcément, il y a des gens qui ont des problèmes avec eux, qui ont peur du jugement des autres en se disant « Ah, j'ai pas assez maigri », enfin des choses comme ça. Comment on pourrait conseiller ces gens pour justement ne pas sombrer dans la paranoïa d'être jugé en permanence par les autres?
Alors, oui, c'est vrai, mais déjà, rien quand tu me dis que des gens vont en vacances, je trouve que c'est bien que des gens aillent en vacances, c'est pas ça, mais devant la situation véritablement dramatique que nous sommes en train de vivre, je trouve que les gens n'en ont pas conscience, quoi. Voilà. Et je trouve un peu triste, quoi, mais bon, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, on ne peut pas changer les gens. Et les gens, eh ben, ils pensent en ce moment à la Coupe de football, la Coupe du Monde. Il y a des passionnés de Coupe du Monde. Et maintenant, les gens ne pensent qu'aux vacances. Des choses qu'on pourrait juger futiles, parce qu'en rapport avec tout ce qui se passe, le sérieux dans le monde, je trouve que c'est un petit peu désolant que les gens n'aient pas la conscience suffisante pour prendre la mesure de ce qui se passe. Et focaliser tous leurs efforts justement pour les vacances, pour le bronzage, pour ces choses si futiles en rapport avec ce qui se passe. Tu crois pas?
Oui, tout à fait. Oui.
Moi, je m'aperçois, et c'est vrai que le fossé se creuse, on dirait. Les gens qui n'ont pas conscience de tout ça, qui vont s'égosiller à crier dans un match de foot, là, on voit des gens passionnés par. Ils ne parlent que de foot, que de. Foot, c'est bien, j'adore le foot, moi, je regarde un match quand il y en a, c'est pas la question. J'aime le jeu du foot. mais me passionner pour tous ces footballeurs qui n'ont aucun souci et qui sont dans un autre monde. Hein, c'est un peu. Voilà. Mais pourquoi on crée justement une Coupe du Monde? Pourquoi on crée des événements comme ça? Un peu pour endormir les gens, c'est ce que je crois.
Oui, bah oui.
Et ça, c'est vraiment très triste. Pourquoi on parle que de vacances? Bon, c'est pour endormir les gens. Tout est fait pour endormir les gens. Et ce qui est triste de voir, c'est que les gens plongent dans le piège qui leur est tendu. C'est un énorme piège qui est tendu. Et les gens, ben voilà, ils y vont. Ils y vont sans réfléchir, ils y vont. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça, hein, voilà. Alors après, le problème que tu dis, bon, si tu veux, ça passe un petit peu au second plan, mais bon, je peux te dire là-dessus, sur la question que tu m'as posée. D'ailleurs, les gens qui vont.
Oui.
Je vais être méchant, encore une fois, mais les gens qui vont à la plage, je ne critique pas les gens qui vont à la plage. J'y vais, moi, à la plage. Mais je me mets dans un coin, je vais pas pour bronzer, je m'en fous de bronzer ou pas bronzer. Il y a des gens pour qui c'est très important de se bronzer, pour qui c'est très important de montrer un corps joli, agréable à voir, hein, c'est vrai. Et quand on a des bourrelets de graisse, là, on veut les cacher. Quand on a un petit défaut par-ci, par-là, on le cache. Ben ça, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux, tu vois, aussi. Ce sont des gens qui sont très dévalorisés et puis qui manquent de confiance en eux. Tu vois, ça, on revient au sujet que j'avais abordé au début. Quand on a confiance en soi, quelle est l'importance d'avoir un corps comme ci ou comme ça? Hein?
Oui.
Mais quelle est l'importance vraiment? Il n'y en a aucune. Hein? Parce que le corps, en fait, le corps, c'est notre véhicule pour mener nos expériences. Mais le corps, c'est pas ce qui est important. Le corps est important pour nous permettre de vivre nos expériences. Mais tout focaliser sur le corps, bon, c'est pas ça la vie. Hein. La vie, c'est un petit peu autre chose, quoi. Tu vois?
Oui. Oui, c'était surtout en fait pour les gens, parce que tu parlais de confiance, c'est surtout pour les gens qui manquent de confiance en eux et que du coup, dès le moindre regard, se sentent jugés.
Mais oui, mais bien sûr, je comprends bien. Mais oui, je comprends bien. Et bien sûr. Mais là, il y a à travailler. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Il n'y a pas à travailler. Le mot travailler, c'est vrai, c'est le mot qu'on emploie. J'aime pas trop ce mot-là. Mais ils ont à s'intéresser un petit peu à autre chose que ce qui les intéresse au quotidien, quoi. Il y a peut-être à participer à des stages, voir un petit peu comment on développe justement la confiance, comment on développe l'acceptation des choses, l'acceptation. Je voulais en parler aussi. Accepter les choses telles qu'elles sont. Hein. Voilà. Et comment comprendre, prendre conscience que ben, la vie, dans la vie, ben, il y a aussi. Je reviens toujours vers ce que je parle, ce que je dis quand je parle d'Oponopono, c'est prendre la responsabilité des choses. Si je suis comme ci ou comme ça, je prends la responsabilité et j'accepte. Et le regard des autres, en fait, tu sais, le regard des autres, en fait, c'est le regard que je pose sur moi-même. Hein. Les autres étant mon reflet. Mais bien sûr, comment est-ce qu'on peut expliquer? On peut expliquer ça de but en blanc à des gens qui ont ce problème. Et ça touche malheureusement beaucoup de gens. Mais il faudrait que. Mais il y a à progresser en conscience, à participer à des stages, il y a des lectures. Il faut progresser, tu vois. Parce que le regard des autres, ben, le regard des autres, c'est le regard qu'on se pose sur soi-même. Si je considère que mon corps, il est moche parce que j'ai trop de ci, pas assez de ça, donc c'est que je ne m'aime pas. Donc il y a à améliorer l'amour de soi. Parce que si l'amour de soi est à un niveau important, j'ai plus à me préoccuper du regard des autres. Tu vois, c'est ça qui est important. C'est l'amour qu'on se porte. Tous ces gens qui se désolent parce qu'on les regarde, parce que voilà, et qui ressentent de l'humiliation, de la honte, ben parce que ces gens ne savent pas ne se sont jamais apportés de l'estime suffisante envers eux-mêmes. Alors je parle d'estime ou l'amour, hein, bien sûr. Donc ça ne se fait pas en 5 minutes, c'est un cheminement, hein, un cheminement qu'il faut, c'est un chemin qu'il faut commencer à prendre. Beaucoup de gens n'ont pas entamé grand chose sur ce chemin. Donc, ben voilà, ils sont soumis à ça. Une simple insulte va déclencher une bagarre. Alors qu'une insulte, c'est juste de dire, si quelqu'un m'insulte, c'est que j'ai quelque chose à voir avec ça. Hein. Hein. Et tout simplement, et dire merci à la personne. Mais ça, qui c'est qui peut le faire, hein.
Oui.
Ah, c'est... voilà. Tiens, de prendre la responsabilité, ça, c'est quelque chose... Tout à l'heure, moi c'est au quotidien que maintenant je fais plus attention, mais tout à l'heure j'étais en moto et dans la petite route où nous habitons, il y a une branche qui était en plein milieu de la route. Une voiture est passée dessus, elle a ralenti, puis elle est passée dessus, puis elle a continué son chemin. Et ben moi je me suis arrêté quand j'ai vu la branche, c'est une branche qui traverse la route qui pouvait être dangereuse quoi. Hein. Je me suis arrêté, j'ai posé mon moto. J'ai enlevé la branche, j'ai nettoyé, et puis je suis parti tranquillement. Hein, j'ai pas fait un acte de bravoure, là. J'ai tout simplement pris la responsabilité de ce que je voyais, et quand j'ai vu cette branche, je me suis pas posé la question, est-ce qu'un camion a fait tomber ça, est-ce que c'est venu d'un arbre, je m'en fous de ça. Je vois la branche, je suis responsable de ça, je ne peux pas faire autrement que de m'arrêter et de réparer ça. Tu vois?
Ouais.
Ça, c'est quelque chose que généralement, pas toujours. Il y a des gens qui le font très généreusement. Mais c'est quelque chose qu'on devrait faire très, très naturellement. C'est ça, prendre la responsabilité de ce que je vois. Tout simplement. Tu vois? Alors moi, je raconte ça parce que j'ai ce souvenir. Ça m'est arrivé, c'était dans l'après-midi. Là, donc c'est récent. Mais c'est, bon, voilà, c'est au quotidien que des choses comme ça peuvent arriver. Et là, c'est prendre la responsabilité et l'acceptation, c'est pareil. Il m'arrive une maladie, je l'accepte. Je ne veux pas me battre. Je ne veux pas me mettre en colère. Je ne veux pas m'énerver. Ben, j'ai ça. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et c'est comme ça que, voilà, qu'on peut élever sa conscience et ensuite arriver à l'amour de soi. L'amour de soi, ça passe par ça. Ça passe par la responsabilité et l'acceptation de tout ce qui se passe, de tout ce qui arrive. L'amour de soi, c'est important. En fait, on pourrait dire que c'est la mission commune à chaque être sur Terre. Hein. L'amour de soi. Hein. Un amour total. Hein. Et c'est pas du narcissisme, comme on pourrait croire. Pas du tout. Non, non. C'est l'amour véritable. C'est pas me regarder dans la glace et voir les beaux muscles que j'ai. Ça, c'est pas de l'amour de soi.
Non, ça non.
Ça, c'est l'ego qui se gonfle, qui gonfle au rythme où on gonfle les muscles. C'est pas pareil. Tu vois la différence, hein?
Oui, oui.
L'amour de soi, c'est quel que soit mon corps, eh bien, je fortifie et j'augmente l'amour que je me porte. C'est ça qui est important. Et à partir de là, ben, il ne peut plus rien arriver. Il n'y aura pas de regard malveillant envers ton corps parce que il est comme ci ou comme ça. Tu comprends? C'est ça qui est important. L'amour de soi. Alors, si tu connais des gens qui ont des problèmes, mais qui viennent participer à mes stages, et puis on en parlera. Voilà.
Oui, justement, si les personnes écoutent cette émission, que ce soit en direct ou en podcast, hein, n'hésitez pas à contacter Jean, justement, pour avoir des questions, ou pourquoi pas participer à des stages pour régler ce souci.
Bien entendu, voilà, tout simplement. C'est tout simple, en fait. C'est tout simple. Mais il faut le dire avec des mots simples, et puis voilà. Donc, alors, c'est sûr que enseigner ça, enseigner ce genre de choses, c'est comme enseigner au Ho'oponopono. Si tu ne le vis pas intensément au quotidien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enseigner. On ne peut l'enseigner que si on le vit. Alors, bon, ben, avec Maria-Lisa, ça fait déjà beaucoup d'années qu'on est dans cet esprit-là. Voilà, Cédric. D'autres questions, peut-être? Alors, est-ce qu'il y a des auditeurs qui ont des questions à poser?
Non, pour l'instant, je n'ai pas eu de questions. Et il y a un souci avec le site, j'arrive pas à y accéder tout le temps. Ce qui devait faire une mise à jour, et ça se trouve, ils ont dû faire cette mise à jour au mauvais moment. Bon, on va espérer que ça va revenir assez vite. Sinon, justement, tu parlais par rapport tu disais tout à l'heure le foot, que ça servait un petit peu à détourner l'attention. Alors, qu'est-ce qui te fait justement dire ça? C'est par rapport à comme tous les étés, que souvent il y a des fois des choses qui se passent pour que les Français oublient un petit peu ce qui se passe en France, et que du coup, pendant ce temps-là, on nous fait des lois derrière nous, quoi.
Alors, mais c'est plus important que ça. Les Romains avaient déjà compris ça, hein. Ils avaient
Oui.
créé des jeux dans les arènes pour divertir le peuple et puis pour que le peuple ne songe pas à se révolter contre le César ou les autres qui ont succédé. Et là, c'est pareil, hein. Il n'y a pas d'arène, on ne fait pas de mise à mort, mais c'est tout comme. C'est-à-dire que le foot, alors on a favorisé le foot, est devenu un sport très 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 populaire, puisque dans une arène, ce sont des arènes, hein, on peut mettre 80 000, 100 000 personnes. Pendant ce temps-là, ces gens-là, ils sont tellement dans l'émotion qu'ils peuvent rien faire d'autre, quoi. Donc ce sont des gens très très facilement manipulables, très facilement manipulables. Tous les passionnés pour un jeu, pour un truc comme ça, ce sont des gens les plus manipulables. Donc ça, c'est clair, hein. Alors, on peut aimer le foot, hein, mais ça, c'est pas interdit, on peut aimer tout ce qu'on veut. Mais surtout, ne pas tomber dans la passion et dans l'excès, quoi. Hein,
Oui.
c'est fou, quoi. Et le foot, alors, on favorise cette passion en surpayant les footballeurs, en faisant des idoles, des icônes, des légendes. Enfin, bon, il y a des mots, les journalistes inventent des mots extraordinaires pour qualifier ces garçons-là, qui savent taper dans un ballon, et ils n'en font rien d'extraordinaire, hein, ce ne sont pas des génies. Hein.
Oui.
Alors, ils sont surpayés,
Ça.
ça crée une émulation, ça crée, je sais pas, mais dans l'esprit des gens, c'est fou, quoi, ce que ça fait, quoi. Et donc, voilà, c'est pour manipuler les gens, toujours. Et tous les événements où il y a du monde, où il y a surtout de l'émotion, sont créés de toutes pièces pour manipuler les gens. Ça, c'est clair. C'est gros comme une maison, c'est visible, bien sûr. Alors, il faut vraiment sortir de l'émotion. Il hein. Faut vraiment sortir de là. On peut s'intéresser à toutes sortes de choses. On peut aimer un chanteur, mais on ne va pas se faire couper en morceaux parce que pour aller le voir à tout prix, ou je ne sais pas. Voilà. Tout c'est. Voilà. Et tous les gens très connus, tous les gens qui sont en haut de l'affiche, ben ce sont des gens à qui on a demandé justement ce genre de service, quoi, en quelque sorte. Alors le foot, c'est un truc assez fort. Après, il y aura le Tour de France. Alors, le Tour de France, moi j'adore le vélo. Et le Tour de France, je ne le manque pas. Mais j'essaye d'être en dehors de la passion, de. Voilà, c'est ça qui est terrible. Pour pas être pris dans l'engrenage de cette manipulation. Parce que c'est toujours des manipulations. Toujours des manipulations. Ouais. Et alors le foot, alors la Coupe du Monde, après les Jeux Olympiques, après c'est ben, tout ça, quoi, hein, tous ces trucs-là. Mais il n'y a pas que ça, après, on va parler de tout ce qui suscite de l'émotion. Hein. Un attentat, tout ça. C'est le même schéma. Hein. On crée
Oui.
de l'émotion et les gens sont unis autour de cette émotion. Et c'est comme ça que. Alors, tu disais, on va faire des lois pendant ce temps, bien entendu. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'au fil du temps, comme ça, les gens sont de plus en plus manipulables. Et c'est comme ça que les élections ne servent plus à rien parce que les gens sont manipulables à un point qu'ils ne peuvent pas imaginer, quoi. On vote pour eux, en quelque sorte. Et oui,
Oui,
c'est
ça.
pour ça qu'il faut sortir de là et garder sa responsabilité, garder son pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on enseigne, c'est récupérer son pouvoir, mais ne pas tomber dans l'émotion. D'avoir de l'émotion, et ça, c'est humain, nous sommes là pour les vivre, les émotions. Mais pas ces émotions collectives qui enflamment l'esprit et qui nous paralysent. Non, là, c'est comme il y a des choses qui sont assez grotesques qui se sont passées comme comment il s'appelle Le super malien, là.
Ah oui,
Et quel drame.
Mamoudou à Saga ou un truc comme ça.
Oui, c'est marrant, ça. Bon, on voit bien que ça a été créé de toutes pièces, ce truc-là, c'est assez
Oui,
grotesque, même.
parce qu'entre-temps, il y a eu un monsieur qui a sauvé un bébé d'une rivière, on n'en a pas entendu parler. Un autre qui
Oui,
sauve
mais...
une personne âgée, pareil, on n'en entend pas parler. Et puis ils n'ont pas eu une
Oui.
Légion d'honneur ou quoi que ce soit. Hein.
Oui, mais là, on voit bien que ça a été créé de toutes pièces. Enfin, penser le contraire, c'est étonnant même, parce que c'est tellement visible, quoi. Mais ça aussi, ça, la France entière, enfin, la France entière, une grande partie des Français se sont unis en disant, oh là là, que c'est beau. Et donc, ce mouvement-là, ce mouvement qui est créé dans cette émotion-là, voilà, c'est encore quelque chose qui contribue justement à rentrer dans le moule pour être encore de plus en plus manipulé. Ça a été pareil pour le gendarme, là, tué, là. C'était encore un truc de monter de façon assez grotesque quand même. Voilà, toutes ces choses-là sont créées. Alors, pour moi, c'est un peu tout pareil, hein.
Oui.
Le gendarme qui, soi-disant, a été assassiné, le super malien. C'est amusant comme tout de penser que des gens croient que c'est vrai, quoi. C'est fou, hein. Enfin bon. Mais voilà, c'est toujours créé pour faire de l'émotion. Donc moi, j'invite les gens justement à récupérer leur pouvoir, leur discernement. Le discernement. Quand on voit un truc comme ça, se détacher de ça, on peut regarder ces événements de façon neutre. Et à ce moment-là, on peut examiner, on peut se dire, bah oui, ça c'est un coup monté, on voit bien, c'est clair. Ou même si c'est vrai, ok, c'est vrai, mais se détacher de ça et ne pas plonger dans l'émotion dans laquelle on veut nous faire plonger. Et voilà, et donc, moi, voilà, c'est ce que j'invite les gens, c'est à prendre la responsabilité. Prendre la responsabilité, garder, récupérer notre pouvoir. Récupérer notre pouvoir. Et arrêter d'écouter le chant des sirènes. Je vais te raconter, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas raconté déjà. L'histoire, enfin, ce n'est pas une histoire, c'est une expérience scientifique qui a été menée par Milgram. C'est un biologiste expérimentateur. Il a monté une expérience il y a quelque temps, et elle est connue, hein, elle est connue, mais c'est intéressant d'y revenir et de bien comprendre. À quel point on peut être manipulé. C'est fou. Alors, son expérience, c'est la suivante. Voilà. Il a voulu prouver justement à quel point on peut être manipulé par quelqu'un et qu'on peut vraiment laisser son pouvoir à quelqu'un d'autre et faire des choses absolument horribles, horribles, et passer pour un monstre. Eh bien, il a pris. Donc il a pris deux cobayes. Deux cobayes, un est destiné à être le professeur, l'autre l'élève. Donc le professeur va poser des questions à l'élève. Celui qui est professeur, lui, il ne sait pas. Lui, il est déjà manipulé pour être le cobaye, en fait. C'est lui le cobaye. L'élève, c'est un acteur. Il va jouer un rôle. Et au professeur, on lui dit, voilà, on va faire une expérience sur l'apprentissage. L'apprentissage. En liaison avec un châtiment. Voyons si le châtiment peut améliorer la connaissance, etc. Donc on lui dit, voilà, c'est une expérience là-dessus. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'expérience, elle porte sur un autre sujet. Mais c'est lui le cobaye.
Oui.
Donc on va lui donner toute une série de questions, et il est devant un appareil électrique, où il y a des boutons. Et l'élève, qui est dans une autre pièce, cachée par une vitre, enfin, séparée par une vitre, est branché à des électrodes, ce qui fait que quand le professeur appuie sur un bouton, il envoie 15 volts à l'élève. Puis,
D'accord.
la deuxième question, si elle est fausse, la deuxième mauvaise réponse, il appuie sur un bouton, il met 15 volts de plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a un bouton qui va jusqu'à 300 volts. Si à 300 volts, le type est mort. D'accord?
Ouais,
Alors,
OK.
il y a une autre personne qui est l'examinateur, c'est lui qui est le chef de l'expérience, quoi, qui est là pour voir que l'expérience, qui vérifie pour que l'expérience aille vraiment au bout. Bon. Il commence, le professeur pose une question, et l'élève, il va s'arranger pour répondre mal,
Voilà, attends.
Il a un bouton, 15 boutons. Et ainsi, il appuie sur 3, 4, 5 boutons. Et au fur et à mesure, l'élève, il pousse un gémissement. Et comme c'est un bon acteur, il va envoyer les cris en fonction du voltage qu'il reçoit, en quelque sorte. Hein.
D'accord.
Et au bout d'un moment, il crie très fort. Et le professeur, quand même, c'est un homme normal. C'est un homme comme toi et moi, comme nous tous. Il dit à l'examinateur, il dit, mais quand même, il souffre, on ne peut pas arrêter. Et l'autre dit, non, continuez, l'expérience doit aller jusqu'au bout. Alors, il continue. Puis, à un moment donné, l'élève crie tellement fort et montre qu'il a une grande souffrance. Alors, le professeur s'arrête, il se tourne vers l'examinateur, il dit, mais il souffre beaucoup. Et l'autre, non, allez jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout, ne craignez rien, c'est prévu. Eh bien, le professeur, pour 65% des, parce que les expériences ont été faites très très souvent,
d'accord,
65% des professeurs sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort de l'élève. C'est extraordinaire quand même.
Oui.
Ça veut dire que 2/3 des gens pris au hasard dans la population sont capables de poser des questions à quelqu'un et d'appuyer sur un bouton et de l'envoyer jusqu'à la mort parce qu'il a mal répondu aux questions. C'est quand même extraordinaire, ça. Hein,
ouais,
et même mieux que ça, l'expérience a été menée à un autre degré, c'est-à-dire que l'expérience a été menée exactement comme cela, sauf que celui qui appuie sur le bouton, c'est quelqu'un qui répond aux ordres du professeur. Donc, ce n'est pas le professeur lui-même qui appuie sur le bouton. Lui, il pose la question et puis il dit « appuie sur le bouton ». Et bien là, ça va jusqu'à 92%. C'est-à-dire quasiment 100% de la population.
Oula.
Pratiquement 100% de la population. C'est-à-dire n'importe quelle personne que tu vois dans la rue, que tu vois partout, est capable de devenir un monstre au même titre que l'étaient les nazis, comme on les a montrés. Parce que les nazis étaient manipulés à 100%. Les pires monstres étaient aussi manipulés. Hein? Hitler lui-même était manipulé par d'autres monstres.
Oui, tout à fait. Ouais. Ça, je crois que tu en avais parlé à une autre émission, parce que là, il y a eu des petits problèmes de réseau. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, donc ça a un peu coupé. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, si vous n'arrivez pas à trop comprendre l'histoire, je crois que Jean en avait parlé. Alors, je ne sais plus si c'était la dernière ou l'avant-dernière émission où tu en avais déjà parlé de ceci.
Oui.
Bon, enfin, c'est quand même compréhensible, mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça te faisait une voix de robot. Alors, je ne sais pas si c'est de ton côté qu'il y a un souci.
Ah, bon. Eh bien,
voilà, ça va pour l'instant. Là, c'est revenu.
Voilà. Donc, en racontant cette histoire, on est vraiment dans cette histoire-là, en quelque sorte. Parce que être manipulé au point où nous sommes manipulés, c'est difficile de faire mieux, hein, en France. Hein. Les dernières élections l'ont montré.
Oui.
Oui, les dernières élections l'ont montré. Je crois qu'il avait 11 ou 12% d'intention de vote réelle, notre président, et il a été élu quand même.
Oui.
Il a été élu quand même.
C'est
les gens ont voté pour lui sans le vouloir vraiment. Quoi.
Mm-hmm. C'est un peu le... Comment dire l'histoire de la grenouille qui est cuite et qui ne savait pas qu'elle était encore.
Alors, ouais, c'est pas tout à fait ça, mais oui, bien sûr. Oui, mais justement, les gens sont dans cette marmite qui est vraiment de plus en plus chaude, et les gens arrivent au point où ils pourraient encore sortir de la marmite, mais il leur reste plus beaucoup de temps.
Ouais.
Sinon, il leur reste plus beaucoup de temps. Et si les gens continuent comme ça, ben ils vont être cuits complètement dans l'eau bouillante. Ta remarque est intéressante parce que c'est ça, l'histoire de la grenouille qui est devenue cuite parce qu'elle croyait qu'elle était toujours bien dans sa marmite. Ben voilà, c'est ça. Mais oui, on en est au point où la majorité des gens peuvent encore sortir de la marmite, mais il leur reste plus beaucoup de temps. Effectivement.
Ouais, c'est ça.
Et là, je répète toujours, voilà, aiguisez votre discernement, reprenez votre pouvoir. Et tu vois, comme l'histoire que je viens de raconter, cette expérience, c'est une expérience purement scientifique, hein, qui a été menée, qui est vraiment, à la place du professeur, si ce professeur a assez de discernement, déjà, il peut dire, mais cette expérience est con comme la lune. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Il se lève et puis il s'en va. Qu'est-ce que c'est que ce truc, hein?
Oui, non, tout à fait, oui. Oui.
Il envoie un voltage à quelqu'un, mais arriver à 100 volts, déjà, c'est pas terrible, 100 volts, ça commence à faire. Tu vois? Eh bien, parce que l'examinateur lui dit, continuez, l'expérience doit aller jusqu'au bout, ne craignez rien. Mais l'autre, il y va. C'est de la même manière, si une blouse blanche te dit, vous pouvez vous faire vacciner, vous craignez rien, allez-y, on te met n'importe quoi dans le corps, et tu l'acceptes. C'est ce qui se passe pour beaucoup de gens.
Oui. D'ailleurs, je profite justement du coach par rapport à ça pour dire que le professeur Henri Joyeux a donc été acquitté en appel. Hein. Bon, même si l'ordre des médecins ont rétorqué qu'ils allaient pouvoir ça en cassation, voilà, parce ouais. que pour eux, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Bon, on espère que la justice va faire exactement la même chose, de faire un non-lieu. Et là, ce sera la dernière ultime, parce qu'on ne peut pas, en France, aller au-delà de la cassation. Et là, quelque part, je pense que ce serait une leçon qui se remettrait dans la tête un petit peu de pas mal de personnes. Par exemple, il y a Michel Simès qui dit que le professeur Henri Joyeux est anti-vaccin, alors que lui le dit clairement, Henri Joyeux, il le dit clairement qu'il n'est pas anti-vaccin. Il demande juste le retour des vaccins sans adjuvant d'aluminium et sans d'adjuvant toxique, quoi. C'est tout ce qu'il demande, lui. Il a dit, je ne suis pas anti-vaccin. Et pourtant, on le catalogue d'anti-vaccin. Donc, on voit que des fois, dans les médias et tout ça, ils déforment les mots dans le but de mettre une graine dans la tête des gens. Et ça revient un peu à ce que tu disais, de le côté d'endormir un peu tout le monde, quoi.
Oui, mais regarde, oui, c'est tout à fait juste. Maintenant, cette affaire-là, si on la prend au deuxième degré, eh bien, Henri Joyeux, c'est un leurre. Parce qu'il n'est pas contre les vaccins. Moi, j'aimerais qu'il soit contre les vaccins. Mais il n'est pas contre les vaccins. Il est juste pour quelque chose d'un petit truc à changer. Ça veut dire que si on lui donne raison, eh bien, tout le monde sera pour les vaccins quand même. Est-ce que tu vois?
Oui.
Eh oui. Pour moi, le professeur Joyeux, c'est quelqu'un de dangereux, finalement. Alors, ce n'est pas quelqu'un de dangereux. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, en fait, parce que c'est un type formidable. Mais ceux qui sont contre les vaccins à 100%, ben, ils voient dans le professeur Joyeux quelqu'un qui peut être dangereux. Parce que si on lui donne raison, alors ça veut dire qu'on est pour les vaccins. Sans aluminium, bien sûr.
Bon, okay. Oui.
Sans aluminium, d'accord. Mais pour les vaccins.
Oui, mais moi je pense en fait qu'il essaye d'aller par étapes. Je pense qu'il essaye aussi de draguer tous ceux qui sont pro-vaccins, qui sont rentrés dans le truc du scientisme, pour les ramener vers lui. Et en fait, je ne suis pas sûr qu'il est vraiment à fond dans les vaccins, mais je pense qu'il va par étapes, parce que s'il dit tout de suite qu'il est anti-vaccin, de suite il va être catalogué comme les autres. Et peu importe ce qu'il dira, personne ne l'entendra, personne ne voudra l'écouter. Déjà, on le voit, lui il le dit, je ne suis pas anti-vaccin, et pourtant il le catalogue d'anti-vaccin. Donc là, il y a un peu, je pense qu'il a laissé une porte d'entrée pour essayer de draguer du monde, pour que des gens qui sont pro-vaccins aillent s'interroger un petit peu dessus. Parce que oui. C'est vrai, quand on va sur son site et tout ça, on sent quand même qu'il n'est pas non plus à 100% pour, quoi. Et je pense qu'il essaye de profiter de dire ça, qu'il est pas contre les vaccins, pour ramener un petit peu du monde qui sont dans ce scientisme, dans le but de les ramener et après de les amener à s'informer par eux-mêmes. Je pense qu'il a un double jeu. Je peux me tromper, mais à mon avis, je pense qu'il...
C'est possible. Ouais, mais c'est possible. Mais c'est sûr.
Parce que quand je me dis... Bah, tous ceux qu'on connaît un petit peu, qu'on en a parlé, bah, comme Christian Talchaleur que j'ai reçu sur la web radio, tout ça, les gens comme ça qui sont eux clairement non, du coup ils se font vite cataloguer et on les étouffe, quoi. Il n'y a pas moyen qu'on entende parler d'eux, quoi.
Oui, c'est certain. Voilà. Non, mais c'est vrai.
Donc je pense que lui, il a voulu jouer la petite carte de faire essayer de grappiller du monde et de planter la petite graine dans la tête des gens, ce qui serait peut-être pas si mal que ça.
Ah mais c'est un progrès, non mais c'est indéniable, il n'y a rien à dire. Ah, moi je suis content que le professeur Joyeux ait fait toute cette action, c'est vrai, ça, il cristallise sur lui beaucoup d'espoir, et, non, c'est intéressant. Oui. Mais je pense, c'est vrai, je pense à Talchaler et d'autres, oui. Il y en a beaucoup, 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 hein, qui préconisent que les vaccins ne sont pas utiles. et qui voit dans le professeur Joyeux, se pose des questions, quoi, voilà. Mais bon, de toute façon, peu importe. C'est vrai qu'il a obtenu une petite victoire. C'est intéressant.
Oui, oui, oui. Parce que bon, honnêtement, il est à la retraite, donc je pense pas qu'il soit radié ou pas radié. Pour lui, ça lui change pas grand-chose parce que il s'est reconverti dans beaucoup de choses, dans l'alimentation et tout, de conseiller. Donc,
oui.
Et puis,
oui, bien.
Voilà, il exerce plus. Donc pour lui. Je crois même qu'il en avait parlé. Il avait dit qu'il a dit que je sois radié ou pas radié. Il a dit ça changera rien pour moi. Il dit je suis à la retraite. Voilà.
Et oui, c'est
C'est voilà. C'est juste que les autres ils veulent faire leur petite guerre pour ouais. se donner raison pour parce qu'en fait tout leur truc commence à partir de tous les côtés. Parce que là on a parlé avec donc comme je disais pour Macron qui a été élu. Mais là il y a des trucs de justice au niveau des financements à Lyon qui
oui.
sont donc en cours d'enquête. Il y en a déjà eu avant. Avec le commissaire des comptes qui avait dit que non, non, il n'y avait rien d'illégal. Bizarrement, cette personne-là a eu une augmentation de salaire très importante juste avant.
Oh.
Un petit peu étrange. Mais de toute façon, les groupes anticorps, ils sont en train de casser la baraque, comme on peut dire, avec de très gros dossiers. Je ne peux pas trop en parler comme ça, mais il y a de très gros dossiers qui sont en train de faire tache d'huile un peu partout.
Ah oui.
Et c'est pour ça qu'on voit ce genre de choses-là qui commencent à éclater, parce que ça... Il y a des élus qui ne sont pas au courant de certaines choses, qui se sont fait dans leur dos et ça ne leur plaît pas. Donc, comme Jean Lassalle, hein, je peux le dire, hein, qui d'ailleurs se fait couper le sifflet hein, en ce moment, parce que lui, oui. il a les dossiers dans les mains, sauf qu'on ne veut pas qu'il les dise, parce que s'il le dit, bah, les autres vont être au courant. Mais il a quand même réussi à contacter ses collègues autres députés. Et là, ça commence à vraiment monter, quoi. C'est en train de monter. Je pense que pendant l'été, il risque d'y avoir des petits trucs bien sympas aussi pour eux. Voilà.
Ah oui. Ah oui, d'accord.
Voilà. Voilà, il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui agissent dans l'ombre. Et quelque part, c'est peut-être pas plus mal parce qu'une révolution et se tabasser et se tuer entre nous, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions non plus.
Mais sûrement pas. Non. Tout ce qui est bagarre, lutte, conflit, guerre, tout ça, c'est non seulement c'est pas souhaitable, mais ça n'a aucun intérêt. Et oui. Non, mais ça, c'est sûr.
Voilà. Moi, je prends souvent un petit peu l'exemple avec les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils n'étaient pas extrêmement nombreux, ils n'y sont pas allés de front. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous agi dans l'ombre. Et si maintenant, de nos jours, on est quand même tranquille par rapport à ça, enfin, entre guillemets, hein, parce que si on rentre un petit peu en creuse, on sent que les autres, ils se sont quand même pas tellement fait éliminer tant que ça. Mais grâce aux résistants qui ont agi dans l'ombre, ça a quand même permis quand même une certaine victoire. Parce que c'est vrai qu'on dit « Ah, les Américains, tout ça », mais faut pas oublier les Russes quand même. Hein. Il y a eu quand même plus d'1 million de Russes qui sont morts pour nous libérer et on leur crache dessus. Moi, personnellement, ça me fout mal à l'aise par rapport à ça. Parce que bon, ce sont quand même des gens qui auraient pu dire « Nous, ça ne concerne pas, on va pas aller là-bas. Hein. » Ils sont quand même venus. Bon, certes, ils avaient peut-être des intérêts aussi, hein, comme les États-Unis, on va pas se le cacher. Mais voilà, je pense que le fait d'agir dans l'ombre et tout ça est beaucoup mieux et plus intelligent que d'aller de front et d'aller dire « Ouais, on va tout casser. » Certes, on peut avoir la colère de le dire, ah oui, on va faire ça, mais entre avoir la colère de l'exprimer et de faire vraiment l'action, je pense qu'il y a quand même un sacré fossé à passer. Et même si malgré, j'en vois certains qui essayent quand même à pousser les gens à la violence, moi souvent je leur dis, c'est pas la meilleure des solutions. Je dis, il vaut mieux à la rigueur agir dans l'ombre. Surtout que.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Non mais, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant. Maintenant, tout ce qui contribue à lutter, malgré tout, même si on n'est pas de front et qu'on agit dans l'ombre, bon, c'est bien qu'il y en ait qui font ça. Mais tu vois, il y a une chose que moi, je serais pour quelque chose d'un tout petit peu différent. Et je vois fleurir un peu partout, je vois fleurir un peu partout des actions qui sont vraiment très, très belles, quoi, très plaisantes et très encourageantes. Par exemple, là où je suis, on est dans l'Ariège, hein, c'est un département les moins peuplés de France. Mais dans la petite ville où nous sommes, il y a 7000 habitants, je vois arriver le troisième centre de thérapeutes de thérapie alternative, alors qu'à Béziers et encore moins Montpellier, deux grandes villes, il n'y a jamais rien eu de tout ça, aucune initiative de ce genre. Et là, il y a 3 centres de thérapeutes. Mais attention, c'est un village avec le maire qui est en tête. C'est lui qui a l'initiative de ça. Il va construire des cabinets, des salles de conférences, un restaurant, pour une quinzaine de thérapeutes, des gens comme moi, des gens de réflexologues, kinés, ostéopathes, masseurs, des gens qui font de différents massages, des énergies énergétiques, etc., etc. Enfin, toutes sortes, on est très nombreux. Trois centres se créent. Et les trois centres, aucun rapport l'un avec l'autre. Alors ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a aussi beaucoup de choses qui se créent. Par exemple, on a eu la visite d'une personne. Elle va créer un village, comment elle appelle ça, un village écologique. Ils sont d'une trentaine de personnes. Ils ont acheté en commun des locaux, une espèce de hameau. Ils ont acheté ça, mais ils ont très très bien organisé leur affaire. Et ils vont vivre en commun. Ils ont 5 hectares ou plus que 5 hectares, non, je crois 10 hectares, un truc comme ça. Oui, c'est ça, une dizaine d'hectares. Ils ont prévu de vivre presque en autonomie, en autarcie. Et ça, j'aime ces initiatives, il y en a de plus en plus, de plus en plus. Et là, ces gens qui vont vivre là, j'imagine qu'il n'y aura pas de télévision dans cet endroit-là, il y aura Internet, bon, parce qu'on ne peut plus s'en passer, il y aura le téléphone et Internet, bien sûr. Et je trouve que ces initiatives sont à la mesure de ce qu'on peut espérer, de ce que le monde peut espérer, le
Oui.
changement de paradigme complet, tu vois.
Oui.
Et tous ceux qui sont les manipulateurs, hein, quand on peut imaginer, on peut mettre des noms, on en connaît beaucoup, tous ces gens-là qui sont dans le pouvoir et l'argent, dans le pouvoir et l'argent, dans plus pouvoir, justement, c'est le cas de le dire, eh bien, ils sont dans un monde que nous allons quitter peu à peu. Tu vois? Et je pense qu'il y a un monde qui est en train de se créer à côté, avec des gens, mais avec des belles initiatives, avec beaucoup d'intelligence. Ce ne sont pas des gens qui font des choses n'importe quoi à la légère, qui réfléchissent. Et voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Par exemple, y a ici, dans l'Ariège, il y a une monnaie qui s'appelle le pirenne. Mais il y a aussi, dans toute la France, il y a un. Comment on appelle ça? Quelque chose qui s'appelle le jeu. Est-ce que tu as entendu parler, Cédric? Le jeu,
Non.
JEU.
Non, non, ça me dit rien. Mais ces monnaies locales, ouais, j'en ai déjà entendu parler. Il y en a une, je crois, aussi dans le coin où je suis là.
Oh, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Moi, j'ai de la monnaie dans les poches, cette monnaie-là, c'est fabuleux. Alors, je ne sais même plus les termes de l'initiale JEU. Bon, bref. Avec le jeu, on a chacun un carnet. Donc on est nombreux à Béziers, ça marchait. Ça a marché un petit peu moins après, mais ça a eu marché. Ici, ça marche pas mal dans l'Ariège, mais ça marche dans toute la France. On a un carnet et on se met des points. Il n'y a pas d'argent, il n'y a aucun échange d'argent. Quand on donne un service, ben on a des points en plus. Quand on reçoit un service, on a des points en moins. Et on a chacun un carnet. Et voilà, il y a quelqu'un qui est venu nous rendre un service là. J'ai donc donné des points et sur mon carnet, j'ai des points en moins. Donc on a un échange de points et on peut vraiment vivre, si on est vraiment très nombreux, on peut arriver à vivre en se passant en grande partie de l'argent, de la monnaie, des banques, etc. Tu vois? Ça,
D'accord.
c'est des initiatives vraiment extraordinaires, formidables. Et ce que je remarque, c'est que ça prend de plus en plus. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Ça se développe un peu partout. Mais c'est étonnant. Ça se développe un peu partout. Et pas qu'en France. En Suisse, en Espagne, des choses comme ça. Mais beaucoup en France. Beaucoup en France. Et donc, si tu veux, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est qu'un nouveau monde est en train de se créer à côté de l'autre. Tu sais, il y a deux mondes qui vivent sur la même terre. Mais qui ont l'air de se séparer de plus en plus, quoi. Là, c'est ça qui me plaît. Et je vais te dire une chose, c'est que si l'ancien monde se casse la figure, ben peut-être qu'il n'y aura plus rien pour récupérer. Mais ce nouveau monde qui est en train de se faire, peut-être que c'est lui qui va prendre la relève. Tu vois? Et moi, j'ai envie d'espérer, comme ça, qu'on passe d'un monde à un autre. Sans guerre, sans souffrance, sans heurts. Tu vois? Les
Oui.
choses. Tu sais, c'est comme quand quelque chose va mourir, puis quelque chose va naître. Il n'y a pas de guerre pour ça. Il n'y a pas besoin. Il y a des choses qui meurent. À mon avis, il y a des choses qui vont mourir. Alors, est-ce que ça va passer par de la tourmente un petit peu, par de la difficulté? Peut-être. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce nouveau monde est en train de d'éclore, de se développer, et il a beaucoup plus d'ampleur qu'on peut l'imaginer. Et ça, il faut bien l'observer et bien le regarder. Alors moi, tu vois, le monde dont tu parles, bon, quand tu ouvres la télévision, tu vois Macron, tu vois les hommes politiques, bon, tout ça, c'est... Pour moi, c'est le monde de l'illusion complet, ça, tu sais?
Oui.
C'est le monde de l'illusion. D'ailleurs, il y a une chose qui m'avait beaucoup amusé. Il y a eu un G8, G9, je sais plus quoi.
G9, oui, il y a pas longtemps, oui.
C'était quand, là? Le mois dernier, là, hein?
Ouais, c'est ça, oui.
Et au moment où il y a eu le G9, le groupe de Bilderberg se réunissait à Turin.
Oui, effectivement.
Alors, ça m'a beaucoup amusé parce que et je me suis plu à regarder ce G9, là. Je les ai vus, là. J'ai vu des images comme ça. Et d'un coup, ça m'est apparu que c'était des pantins parce que les décisions les concernant se prenaient à Turin au même moment.
C'est ça.
Tous ces gens-là qui ont l'air d'être des gens importants, Trump, Macron, bref, l'Espagnol, l'Italien, je ne sais plus qui c'était, ah, la Merkel, etc. Ils sont là à faire les beaux, à dire des phrases importantes, alors qu'en réalité, tout ça, c'est vide de sens, parce que les décisions importantes se prenaient au même moment à Turin. C'est quand même étonnant, ça. Ça m'a beaucoup amusé, mais j'ai vu nulle part ce parallèle entre le même moment, il y avait ces deux moments importants, ces deux événements importants, en quelque sorte.
Ouais.
Mais le coup de Bilderberg, tu n'en parles pas, tu n'entends pas dire à la télé ni dans les journaux, hein, mais on le sait. Alors que les télévisions n'ont parlé que de ça, le G9, les images partout. C'est étonnant quand même, hein.
Alors, par contre, si ils en ont parlé, mais dans les médias russes, donc que ce soit RT France et Sputnik France, ils en ont parlé. Ils ont même dit où c'est qu'ils se réunissaient. Mais ça a été les seuls médias qui en ont parlé, effectivement. Voilà.
Ah oui, le groupe de Bilderberg, oui,
Ouais,
d'accord.
c'est ça.
Ouais. Alors, entre parenthèses, il y a notre ministre de l'Éducation nationale qui était invité. La liste, moi, ça m'amuse de regarder la liste de ceux français. Là, il y en a eu, je crois, 8 ou 9. C'est beaucoup, c'est nombreux, les Français, cette année. Donc, il y avait le ministre de l'Éducation nationale, ce qui n'est pas rassurant pour les réformes à venir de l'éducation nationale. Mais bon, c'est comme ça. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et c'est vrai que moi, je suis plein d'espoir, finalement. Je suis plein d'espoir de voir ces belles choses qui se passent un peu partout. Ces belles initiatives. Et il y en a beaucoup. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que sur Internet, il y a beaucoup de médias comme ta radio. Beaucoup de radios qui parlent, qui disent des choses intéressantes. Il y a beaucoup, beaucoup de médias. Et je remarque aussi des journalistes connus dans le monde normal de l'audiovisuel ou des médias
Media mainstream.
sans passer dans le camp des radios moins connues, télévisions moins connues, hein, de l'Internet. Mais je vois qu'ils sont très nombreux. C'est intéressant, ils disent des choses intéressantes quelquefois.
En espérant que la loi fake news va pas trop bloquer tous ces médias alternatifs.
Oh oui, mais il ne faut pas s'inquiéter de ça.
Non.
Faut pas s'inquiéter. Tu vois, ça c'est une règle, ne pas s'inquiéter. Voilà. Si on commence à avoir peur d'une chose ou d'une autre, d'une loi qui vient de sortir, de ci, de là, là, ça commence à pas être bon. Hein. Si on a peur, c'est pas bon. On n'a pas à s'inquiéter. Les choses doivent se faire comme elles se font. Puis voilà. Les choses vont arriver. Il faut accepter les choses. Il ne s'agit pas d'être fataliste et puis de prendre des coups sur la tête et de
Oui.
rester là où on est. C'est pas ça. Mais d'accepter, bon, les choses sont ce qu'elles sont. Mais il y a des choses qui vont se passer. En même temps, il y a des choses qui se passent. Voilà. Moi, je préfère mettre l'effort justement sur ces choses alternatives qui se développent partout, plutôt que de mettre mon effort pour lutter contre ce que je crois qui va mourir tout seul. Tu vois?
Oui.
Voilà, c'est ce que je pense, hein, vraiment.
Ok.
Donc, voilà. Voilà, ça me plaît mieux de participer à des choses comme ça, tranquillement, de voir un peu ce qui se passe, de rencontrer des gens. Je rencontre des gens intéressants, mais qui sont des gens qui ne regardent jamais la télévision. Ça les intéresse plus du tout. Et pourtant, ils font des tas de choses intéressantes, fabuleuses. Il y a vraiment, hein, il faut en prendre conscience, il y a un monde qui est en train de se former, là, tu sais.
Oui.
Ouais, c'est beau ça quand même, je trouve. Moi, je trouve que c'est plein d'espoir. Voilà.
Tout à fait. Et bah là, justement, on approche, enfin, on a même dépassé un petit peu l'émission. Quel serait donc ton mot de la fin pour les deux mois à venir et puis le temps qu'on reprenne en septembre?
Ben, je l'ai dit déjà, je suis plein d'espoir. Voilà. Moi, je suis plein d'espoir pour ce qui va arriver. Et puis, j'invite les gens, ben, à dissoudre leur peur. Mais ça, c'est un vœu pieux, mais on va me dire, mais comment je fais? Ben, comment je fais? Vaincre les peurs, il faut y penser, prendre conscience que c'est ça notre plus grand ennemi, c'est nos peurs. Hein. Voilà. Et puis, privilégier, pour ça, il y a des choses toutes simples. Privilégier la méditation, privilégier des temps de silence, même les gens qui sont en vacances, et les gens en particulier, ils parlent trop. Tu vois? Les
Oui.
gens parlent trop, mais c'est fou les gens comme ils parlent sans arrêt, sans arrêt. Alors, à cela, je les invite à s'arrêter de temps en temps. Quelques minutes, et puis à rester dans le silence. Et là, ils vont comprendre des choses, peut-être. Voilà. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il n'y a que dans le silence qu'on peut recevoir les messages de son âme. Sinon, dans le tumulte, on n'entend rien du tout et on ne comprend rien. Et donc, dans le tumulte, on ne fait que survivre toujours, quoi. Puis on grouille dans nos peurs, là, tout le temps. Le silence, la méditation, la prière pour ceux qui veulent. Mais la prière, oui, il y a des prières magnifiques à faire. La prière, vous pouvez en inventer, chacun peut inventer sa prière. Il ne s'agit pas de demander quoi que ce soit à quiconque. Il s'agit de cultiver l'amour en soi. C'est ça la prière. C'est ça la prière.
Oui, tout à fait.
Et voilà. Et cultiver les temps de silence. Mais bon sang, c'est important ça. Des temps de silence. Marcher 10 minutes entre les arbres, quelque part, dans un parc. Et essayer de ne rien, de ne penser à rien, juste de voir les feuilles des arbres, de suivre un oiseau du regard, voilà, des choses futiles comme ça, simples. Et c'est comme ça que peu à peu, on peut arriver à se connecter à son âme et puis entendre ce qu'elle est en train de nous dire. Elle est tout le temps en train de nous parler, mais on n'écoute jamais. Et pourquoi? Parce qu'on est tellement dans le vacarme quotidien, le tumulte, ce brouhaha constant là, de nos paroles, de nos propres paroles, mais c'est fou quoi. Si les gens se rendaient compte que dans toutes les paroles qu'on sort là de notre bouche, 95% ça sert à rien, c'est inutile, ça c'est du blablabla.
Ouais.
C'est important ça, voilà. J'invite les gens à prendre des temps de silence, voilà. C'est important ça. Pour se retrouver avec soi-même. Et c'est avec soi-même que on va retrouver toute notre force, c'est pas à l'extérieur. Voilà.
D'accord. Eh bien, merci pour ce mot de la fin, Jean. Je vais donc clôturer cette émission et je te souhaite de bonnes vacances un petit peu pour les 2 mois à venir. Et donc, on se retrouvera au mois de septembre. Je le rappelle, ce sera donc le dernier vendredi du mois de septembre. Et vous retrouverez donc aussi toutes les autres émissions qui vont reprendre donc tout en septembre. Sauf une qui devait commencer ce mois-ci, qui commencera donc le mois prochain, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis. C'est mon couple féminin-masculin qui va donc commencer le premier vendredi de juillet. Donc n'hésitez pas à participer à cette émission avec notre nouvel animateur. Voilà, donc Jean, je te dis donc à bientôt. Et puis de toute façon, on se tient au courant entre-temps.
Je vais consacrer ces vacances à écrire principalement. Voilà.
D'accord. Bon. Eh bien, bonne écriture alors dans ce cas-là, et on pourra peut-être en
Merci.
parler justement en septembre.
Oui, peut-être. D'accord. Bien volontiers.
Voilà, ça permettra d'avoir un petit sujet si
Voilà.
D'en parler, et puis pourquoi pas d'autres, parce que pendant 2 mois, hein, il y a de l'eau qui va couler sous le pont, donc on aura sûrement
Oh,
de...
oui, c'est sûr, c'est certain. Ouais. Donc, bonnes vacances à tous et bonnes vacances à toi, Cédric.
Merci.
Et donc, à septembre,
À
alors. Hein?
septembre, voilà, c'est ça.
Très bien. Merci, Cédric. Au
Allez, de rien.
revoir.
Allez, au
Bonne
revoir.
soirée.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, donc cette émission touche donc à sa fin. Donc je vous donne rendez-vous au mois de septembre 2018 pour la reprise de l'émission Spiritualité en question. Donc je vous le rappelle, le dernier vendredi de chaque mois. Information importante aussi, je vais vous signaler aussi que Histoire du soir avec Olivier Burette va changer de fréquence. Donc ce ne sera plus une émission mensuelle, ce sera donc une émission qui sera trimestrielle. Voilà. Et sinon, en attendant, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas donc, comme disait Jean, à méditer hein, pendant vos vacances, pourquoi pas à la plage ou dans des endroits bien calmes. Hein. Voilà, surtout n'hésitez pas. Et surtout, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous donc au mois de septembre. Allez, à bientôt.